Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue en ce 13 avril, le premier jour du printemps.
Oui, effectivement.
Oui, c'est ça. C'est beaucoup mieux que c'était le 21 mars.
Je ne m'en souviens plus.
Bon. Alors, les voix que vous avez entendues, ce sont celles de Franceline Nieuviat. Bonjour,
oui.
Franceline.
Bonjour.
Et Serge Hamelin.
Oui.
Sergio, je pense.
Ah, ben, des fois. Ça dépend.
Alors, nous sommes là pour vous proposer le Kiosque Magazine du lundi, celui qui se consacre à la culture et à la société. Et au menu aujourd'hui, qu'avons-nous, Franceline?
Alors moi, les deux articles concernent les relations parents-enfants. Le premier s'intitule « Quand les enfants annoncent une mauvaise nouvelle ». C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans « Le bel âge » d'avril 2015. Et le deuxième, il y aura deux petits articles. Le premier « Ni trop tard, ni trop vite » par Daniel Choquette dans le Journal de Montréal. Et « Les parents peuvent rendre leur enfant narcissique ». C'est une nouvelle de l'AFP dans le Journal de Montréal.
Et puis moi, je vais parler des autos d'occasion. Je pense que c'est l'occasion d'acheter une auto d'occasion. C'est
oui,
le printemps,
oui, c'est
le fun. Et je vais vous parler de Jean Leloup, vous le faire découvrir, celui qu'on a entendu hier à la voix.
Ah oui, hein?
Oui.
Bon, alors pour ma part, je vais vous parler des boulots, des pires boulots dans le monde. C'est quelqu'un qui s'est intéressé à ça.
Les boulots.
Les boulots. L-O-T.
Ah bon, le travail.
Le travail, c'est ça. Mais pour tout de suite, je vous amène faire un tour dans les Émirats, je vais y arriver, dans le Golfe Persique.
Pas de le Golfe Persique.
Celui-là même, dont j'avais oublié le nom, qui m'est revenu tout à coup.
Oui.
Alors, je commence par lire l'introduction qui est celle-ci, des camions géants. Les excavatrices dernier cri. Ça va vous intéresser, Serge.
C'est un très gros Ronan.
Un bricoleur comme vous. Dans les couloirs du Salon international du bâtiment et de la construction de Dubaï, on trouve de tout, même des entrepreneurs québécois déterminés à rafler leur part du gâteau qui est de 1,7 trillion de dollars.
Seulement.
Rien que dans la péninsule arabique. C'est là que je voulais vous amener.
Ah,
oui. J'ai eu beaucoup de mal à le faire.
Non, quand même.
C'est ainsi que le journaliste commence son article. C'est le journaliste en question. C'est de Jean-Benoît Nadeau. Alors, il écrit, ils viennent de partout. Ingénieurs, architectes, entrepreneurs, fabricants, vendeurs. En complet, en djellaba ou en boubou. Ils sont là pour vendre, acheter, s'informer, réseauter ou simplement magasiner parmi les 2800 kiosques du Salon international du bâtiment et de la construction Big Five de Dubaï, l'un des plus grands du genre au monde.
Ça a lieu à quel mois, ça?
Ça avait lieu au mois de novembre.
Ah!
Oh, c'est là que c'était intéressant. Pendant 4 jours, à la mi-novembre, ils furent 80 000, je n'y étais pas, à fouler les immenses tapis bleus de cet invraisemblable capharnaüm composé de robinets, d'échafaudages, d'excavatrices. Ici, un groupe d'émiratis coiffés du traditionnel kéfié examine le fonctionnement d'une grenouille servant au pilonnage et au compactage du sol. Là, des entrepreneurs italiens font tâter leur marbre à de potentiels clients coréens. Tandis que tout près, une nouvelle machine turque à tresser les clôtures en fil de fer produit un boucan terrible qui attire les émules de Bob le bricoleur. Ça fait 11 ans qu'on vient au Big Five de Dubaï. C'est très bon pour nous, dit Philippe Gosselin, représentant des ventes de Canndoc de Sherbrooke, tout en faisant la démonstration de son système de quai flottant qui occupe les trois quarts de son grand kiosque. Habitué des salons nautiques, il participe aussi à des salons de construction. Notre concept, dit-il, s'intègre à des projets immobiliers. Il trouve aussi des usages industriels, notamment pour soutenir des tuyaux de pompage ou un héliport flottant. Et puis, bon nombre d'entrepreneurs ont besoin d'un quai pour leurs embarcations. Canndoc n'est pas la seule entreprise à revenir d'année en année à Dubaï. La valeur des contrats actuellement en chantier dans la péninsule arabique, 1,7 trillion de dollars, dont 680 milliards rien que pour les Émirats arabes unis, met l'eau à la bouche aussi. Car l'industrie mondiale de la construction voit son centre de gravité se déplacer vers les pays émergents. D'ici 10 ans, ceux-ci doubleront leur part du marché mondial de la construction qui passera du tiers aux 2/3. Les entreprises québécoises et leurs fournisseurs rêvent tous de rafler une part du gâteau, comme Blankfort de Saint-Éphrem-de-Beauce, qui a fourni l'âme des portes intérieures du Burj Al Arab à Dubaï, l'un des hôtels les plus chers du monde, reconnaissable à sa silhouette de voilier. Les âmes des portes, je pense que c'est le centre. Hein. Kandak fait partie de la trentaine de sociétés canadiennes regroupées autour du pavillon canadien dans le Hall 1. Parmi les exposants québécois, il y a aussi Devim, 49e de Pointe-Claire, qui construit des habitations modulaires préfabriquées. L'entreprise montréalaise SMARD, S-M-A-R-D-T, qui produit des refroidisseurs centrifuges pour la climatisation, et le fabricant de filtres Sonitech Vortizan de Montréal. Alors, il y en a plusieurs Montréalais et Québécois et Canadiens qui s'y trouvent à Dubaï pour ce grand salon. Alors, on poursuit. Big Five est franchement intimidant, même si le World Trade Center de Dubaï est deux fois plus grand que le Palais des Congrès de Montréal et quatre fois plus grand que celui de Québec. Les 30 000 visiteurs quotidiens se marchent presque sur les pieds parmi la quinzaine de halls consacrés à la machinerie, au béton, à la peinture, à la décoration, à la robinetterie, au concassage, à l'ouette. Dans ce méga Rona des entreprises de construction, on en vient vite à ne plus savoir où donner de la tête. C'est une avalanche de nacelles araignées sur chenilles dignes des transformers, de gants protecteurs de tubes de silicone en tout genre. En veux-tu, en voilà. D'une allée à l'autre, les générateurs de glace en flocons, essentiels au refroidissement du béton, le dispute aux machines à scier les rails, aux robots poseurs de vitres et aux coffrages à béton en bambou. C'est du développement durable qui oblige à se tourner vers cette nouvelle technologie. Ceux qui en veulent un peu plus peuvent suivre une des 55 formations gratuites, comme se lancer dans les affaires dans un pays du Golfe ou l'étiquette des affaires au Moyen-Orient. Pour faciliter le travail des visiteurs, les organisateurs ont créé un sentier de l'innovation qui comprend un certain nombre de produits avant-gardistes, comme le visionnement holographique de projets de bâtiments, la peinture pour portes sans cadre, ça ne doit pas être évident, l'interrupteur sans fil, le drain qui ne se bouge pas, le bloc de béton allégé, le tapis en ciment et la membrane anti-crevaison pour pneus de machinerie lourde. L'ambition des organisateurs du Big Five de Dubaï est conforme à la tendance et à la demesure de Dubaï, un ancien petit port perlier devenu une métropole du Golfe Persique. C'est à Dubaï qu'on trouve le plus haut gratte-ciel du monde, le Burj Khalifa, 828 mètres, cinq fois le mât du Stade olympique de Montréal, le plus grand centre commercial, le Dubaï Mall, la plus grande île artificielle en forme de palmier, le plus long métro automatisé, le plus important centre de ski intérieur à Dubaï. Cinq pistes, un remonte-pente. Tout est immense à Dubaï. On creuse un nouveau canal qui passera sous trois autoroutes. Pas de problème. On construira deux ponts de 6 voies et un autre de 16 voies en 3 ans. En fait, c'est toute la région du Golfe et plus largement le Moyen-Orient qui est en ébullition. Alors, la plupart des entreprises rêvent de trouver au Big Five le distributeur ou le partenaire local qui lui ouvrira les portes d'un marché très dynamique. Marcel Landry, vice-président de Gentech, qui faisait partie de la délégation du Québec international, est reparti satisfait. Ce fabricant d'appareils de commande électronique pour circuits électriques a déniché un distributeur prêt à intégrer les produits de Gentech dans ses catalogues. Dernier point, la délégation canadienne avec ses 30 entreprises a l'air d'une naine en comparaison de celle de l'Italie, qui en comprend 380. Oh! Alors, les bâtisseurs de l'extrême, c'est dans l'actualité du 1er avril, sous la signature de Jean-Benoît Nadeau.
Maintenant, quand les enfants annoncent une mauvaise nouvelle...
On change de sujet un peu. Hein?
Absolument. On va dans le plus concret aussi. On ne souhaite jamais que ces enfants aient à vivre des événements douloureux. Mais la réalité est parfois tout autre. Lorsqu'une situation difficile survient, Mieux vaut savoir y faire face afin d'aider son enfant et s'aider soi-même à traverser la tourmente. Alors voilà deux situations. Ma fille a fait une fausse couche. Selon la croyance populaire, lorsqu'un bébé ne se rend pas à terme ou meurt à la naissance, les parents s'en remettent plus vite que s'il avait vécu avec l'enfant. Or, les recherches démontrent que les parents peuvent ressentir une grande perte à n'importe quel moment de la grossesse et que leur chagrin peut être aussi intense que s'ils avaient vécu avec le petit. Pour les parents, un lien affectif s'établit bien avant la naissance du bébé. Pour l'entourage, c'est différent. L'attachement n'est pas encore créé. Il est donc difficile pour les proches de comprendre toute la peine ressentie par les parents et surtout son intensité et sa durée. La peine est pourtant bien belle et bien réelle. Au cours des semaines qui suivent une telle perte, les parents traverseront immanquablement une période de deuil marquée par toute une gamme d'émotions, les mêmes qu'à la mort d'un être cher. Leur deuil durera de quelques semaines à plusieurs mois. En général, plus le décès survient à un stade avancé de la grossesse, plus le deuil risque d'être long. Mais peu importe le stade de la grossesse, il est important de ne pas minimiser la douleur que cause la mort d'un bébé à naître. Excusez-moi. Ne soyez pas mal à l'aise de parler de cette perte avec votre fille. Au contraire, les personnes endeuillées ont besoin de partager le drame qu'elles vivent. Écoutez votre enfant dire sa colère, sa tristesse, son amour pour son bébé perdu, sans la juger. Réconfortez-la aussi, mais évitez les formulations du genre « c'est pour le mieux, il n'aurait pas été normal »,« t'es chanceuse, tu en as un autre », ou « vous êtes jeune, vous pourrez en avoir un autre ». Demandez-lui plutôt ce que vous pouvez faire pour l'aider à traverser cette épreuve. Soyez disponible et attentif à ses besoins. Laissez-lui le temps de faire son deuil. N'insistez pas pour qu'elle se débarrasse vite des objets destinés au bébé et qu'elle démontre sa chambre. Une bonne idée, suggérez-lui de se joindre à un groupe de soutien ou à des forums sur Internet pour parents endeuillés afin de partager son histoire avec des personnes qui comprennent sa douleur. Rien n'y fait. Après une telle perte, certaines mères se culpabilisent, se sentent responsables. Elles cherchent les erreurs qu'elles auraient pu commettre. Elles ont l'impression de ne pas avoir été à la hauteur. C'est pourquoi elles n'arrivent pas à faire leur deuil. Si c'est le cas, conseillez à votre fille de consulter un professionnel. Une fois la période de deuil passée, il ne faut surtout pas faire comme si le bébé n'avait jamais existé. Certaines personnes vont en effet tirer un trait sur l'événement afin de ne pas raviver la douleur des parents. Mais pour ces derniers, cet épisode fait partie de leur histoire de famille. Il a une place dans leur vie, acceptez qu'il en soit ainsi. Acceptez aussi que votre fille puisse connaître de temps à autre des petits moments de tristesse, notamment à la date du décès de bébé. Si votre enfant veut en parler, écoutez-la simplement. Deuxième situation, il vient de m'annoncer qu'il souffre d'un cancer. Lorsqu'un enfant tombe gravement malade, c'est toute sa vie, mais aussi toute celle de ses proches qui basculent. À la suite d'une telle annonce, vous vivrez donc, vous aussi, plusieurs émotions, allant du déni à la tristesse, en passant par l'anxiété, la peur et la colère. Normal. Mieux vaut toutefois éviter de les partager avec votre enfant. Pris lui-même dans un tourbillon d'émotions intenses, il n'est pas en mesure de vous écouter ni de vous soutenir. De plus, il risque de refouler ses propres sentiments afin de vous protéger. Cela dit, ne mettez pas vos émotions en veilleuse pour autant. Il est important d'avoir quelqu'un à qui confier ce que vous ressentez. Cherchez du soutien auprès de votre partenaire, de vos proches, de vos amis, d'une association d'entraide ou d'un professionnel. Vous préserverez ainsi votre rôle d'aidant et gérerez mieux la suite des choses. Demandez à votre enfant de vous expliquer clairement la situation. L'erreur à éviter, décider ce dont il a besoin. Si vous vous imposez ainsi, il se sentira envahi. En revanche, si vous attendez qu'il vous fasse signe pour agir, il pourrait percevoir votre attitude comme un geste d'éloignement. Sans compter que les gens malades n'ont pas toujours le réflexe d'aller vers les autres. Pour éviter tout malentendu, demandez simplement à votre enfant de quelle façon vous pouvez l'épauler. Ne vous contentez pas de dire « si tu as besoin d'aide, dis-le-moi ». Apportez un soutien concret en fonction de ses besoins et de vos capacités, comme l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, faire le marché, aller chercher ses ordonnances, accomplir des tâches ménagères, vous occuper des enfants, préparer des repas à congeler. Si certaines personnes expriment clairement leurs besoins, d'autres le font difficilement. Dans un tel cas, mettez-vous en mode écoute afin de décoder ce que voudrait votre enfant. S'il vit en couple, discutez-en avec son conjoint ou sa conjointe. Soyez proactif, mais sans être envahissant. N'essayez pas de prendre les choses en main. Même si c'est bouleversant pour vous, encouragez votre enfant à exprimer ouvertement ce qu'il ressent, mais sans insister. Respectez son rythme et ses silences. Ne vous croyez pas obligé d'entretenir la conversation en sa présence. Être simplement là, tenir sa main, montrer de l'intérêt pour ce qu'il vit, l'écouter, c'est l'aider. Et il vaut mieux ne rien dire que de lancer des paroles du genre « Ne t'en fais pas, je suis sûr que tout ira bien » ou bien « T'es fait fort, tu vas t'en sortir ». En tenant un tel discours, on fait comme si on ne voulait pas entendre parler de sa souffrance. Ce genre de commentaire est davantage fait pour se convaincre soi-même que pour convaincre l'autre. Évitez également de raconter l'expérience du cancer d'une autre personne. Chaque histoire diffère. Par ailleurs, il se pourrait que votre enfant souhaite un jour discuter de sujets délicats, tels la possibilité que le cancer soit incurable ou la nécessité qu'il rédige rapidement son testament. Soyez prêt. Au besoin, admettez que vous ne savez pas quoi dire ou que vous trouvez difficile de parler de ces sujets. Le dire ouvertement rend la situation moins pénible et ouvre la discussion. Il minimise la maladie ou refuse de se battre. Il peut s'agir d'une réaction de protection. Inutile d'essayer de le convaincre du contraire. Instaurez plutôt un dialogue afin de comprendre ses motivations. Laissez le temps faire son œuvre. Enfin, respectez sa vie privée en ne divulguant pas la nouvelle à gauche et à droite, et encore moins sur les réseaux sociaux. Il n'a probablement pas envie que tout un chacun le sache. Voilà, c'était donc écrit dans le journal Le Bel Âge de avril 2015 par Jacqueline Simoneau, et ça s'intitulait « Quand les enfants annoncent une mauvaise nouvelle ».
Des victoires et des revers.
D'accord. Alors, Jean Leloup, ça vous dit quelque chose?
Oui.
Vous l'aviez entendu?
Jean Leloup, non.
Il a chanté à la voix.
Ah, oui. Qu'est-ce qu'il
très
a chanté?
Très belle prestation, toutes sortes de choses. Ben, par exemple, Paradise City.
Ah oui? Hein.
Oui, un gros hit, ça. Jean Leloup, les pérégrinations d'un iconoclaste. Oupla, ça a été écrit par Nafi Alibert dans la revue L'Itinéraire. À peine arrivé à l'itinéraire, Jean Leloup enlève son chapeau noir, pose sa guitare au comptoir. Vous savez qu'il a l'air un peu spécial, cet être-là.
Oui, oui.
Eh bien, on va savoir pourquoi dans l'article, vous allez voir. Il prend un café et s'assoit au milieu des camelots qui l'attendaient. Et une rencontre teintée d'anecdotes, de souvenirs d'enfance et de son expérience de l'ailleurs qui s'est terminée en chanson. Incursion dans l'univers de cet original pas normal. Alors, c'est Nafi Albert qui pose la question. Dis-moi, ta carrière est ponctuée d'allers-retours au cours desquels tu te fais oublier pour mieux revenir. Que cherches-tu dans tes voyages? Ben, j'essaie de bien me désintoxiquer des structures modernes, car je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie ici. J'ai grandi à l'étranger et sans trop m'en rendre compte. Quand je suis venu m'installer véritablement au Québec avec ma famille, j'ai essayé de comprendre comment on fonctionnait ici. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai pris ma guitare, puis j'ai décidé de chanter en suivant la voix d'artistes comme Jimi Hendrix. Et comment t'a-t-il inspiré? Ben, il évoluait dans la société moderne tout en restant un vrai humain. C'était un gars qui ne voulait rien savoir, mais il avait une guitare, puis il aimait s'habiller en rose. Il faisait ce qui lui plaisait sans essayer de plaire à tout le monde, et il a réussi à gagner sa vie comme ça. Il m'a montré qu'on pouvait réussir en étant soi-même, sans chercher à devenir autre chose. Tu parles de vrais humains. En quoi, dans ce que tu appelles les sociétés modernes, les gens sont de faux humains? Oh, quelle question. Alors, tout le monde sait qu'il y a trop de pollution, qu'il faut arrêter ça. Les vrais humains, quand ils veulent arrêter de polluer, ils arrêtent de polluer. Des robots, quand ils veulent quelque chose, ils ne le feront pas à moins qu'on les ait programmés comme ça. Et dans le fond, je n'ai juste pas embarqué dans le système. Si c'est un virus qui s'attrape jeune et je ne l'ai pas pogné. Et de quel virus parles-tu? Ben, celui qui te fait croire que tu vas devenir quelqu'un. Mais tu es déjà quelqu'un. On a deux bras, deux jambes, on mange, on chie, on pisse. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas compliqué. Mais ici, il faut une étiquette qui colle à tout le monde, comme si on était réduit à son métier ou son statut social. Je pense que je n'ai pas attrapé ce virus, peut-être parce que j'ai grandi ailleurs. Ah! J'ai passé beaucoup de temps au Togo. Pas le pogo, le Togo.
Togo.
Ici, c'est le pogo et on les mange. On était dans un village minuscule à la frontière du Ghana. Il n'y avait pas d'électricité. On avait une pompe pour l'eau et on éclairait à la lampe tempête. C'était un autre monde où on vivait d'une autre façon. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais par exemple, à l'époque, les notions de frontières et de territoire n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Je me souviens qu'il y avait des terrains qui ne servaient à rien autour de l'école, sur lesquels les familles les plus pauvres cultivaient pour ramener de la nourriture à la maison, et c'était normal de faire des choses ensemble pour manger et de s'entraider. Moi, c'est ça que j'ai vu, et quand j'étais petit. Et comment as-tu vécu cette expérience d'immigrant où l'autre, c'était toi? Je me suis senti complètement accepté. Moi puis mon frère, on était les seuls blancs à des milles à la ronde. On a vite compris une affaire, se chicaner pour rien, c'est pour les bébés gâtés. Il fallait qu'on reste cool ensemble. T'as donc pas eu de mal à t'intégrer? Non. À vrai dire, moi, je me sentais même plus blanc. Et c'est en partie grâce à la musique. On vivait dans un centre vaudou. Donc, la nuit, il y avait souvent des tam-tams. Ça bougeait. Je dansais aussi. On a tout appris là-bas. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai découvert qu'on n'avait plus le droit de danser comme ça. Un jour, à l'école, on nous a demandé de faire un spectacle. À l'école ici, au Québec. Là. Alors, je dansais et mon frère jouait des percussions. On a donc fait un show devant la classe. Et là, tout le monde est resté bouche bée. La prof était rouge, ils étaient choqués. Ils ont même interdit aux enfants d'être avec nous parce que pour eux, c'était trop explosif. Pourtant, les hanches, c'est fait pour bouger, non? Ah là là, c'est quelque chose quand même. Alors, comment s'est passé ton retour au Québec? Ben, on est revenu quand j'avais 8 ans. Et avant de repartir pour l'Algérie, j'étais terrorisé. Quand je suis arrivé ici, j'ai pas compris. J'ai jamais rien compris, de toute façon. Un truc que j'avais appris là-bas, c'est que personne n'est mieux qu'un autre. Mais là où j'étais, personne n'avait d'argent, ce qui fait qu'il y avait une autre façon de regarder la vie. On ne fonctionnait pas en meilleur ou en moins bon. Au pire, on était différents, c'est tout. Puis à l'école, il n'y avait pas de « on va rire de lui » ou « lui, c'est un loser ». Non, quand je suis arrivé ici, que j'ai découvert tout ça, je me suis dit « mais qui sont donc bizarres ?» Ouais. Donc, tu t'es senti quelque part étranger dans ton propre pays? Totalement. Quand j'ai commencé à l'école ici, tout me semblait trop parfait, tout était à sa place. Il n'y avait pas de chèvre dans la cour, il n'y avait rien. Ici, à l'itinéraire, là où je vous parle présentement, c'est un palace par rapport à mon ancienne école. Un de mes premiers jours de classe, j'ai eu envie de faire pipi. Mais je pensais que les Blancs ne faisaient pas pipi, parce que j'avais jamais entendu quelqu'un de dire « j'ai envie de faire pipi ». Fait que j'ai fait pipi dans mes culottes. Puis quand je l'ai dit à ma voisine, elle m'a répondu « mais pourquoi t'as pas demandé pour y aller? » Ben, j'ai dit « comment on fait ça? » Ben, elle m'a répondu « ben, en levant son doigt en l'air. » Voilà. Là, j'ai compris où je venais d'arriver. Puis j'ai jamais eu envie d'être vraiment comme ça. Moi, je voulais m'en aller. Et dès que j'ai pu, je suis parti. Et je passe d'ailleurs mon temps à partir. Et le premier endroit où je suis allé, c'est au Brésil. J'avais 26 ou 27 ans. Et la première fois que j'ai pu foutre le camp, Menteur a été un des derniers vinyles pressés au Québec. Et aussi mon premier chèque et l'argent en poche. Eh bien, je suis parti pour ce pays où je suis resté dans une cabane au bord de la mer. Et là, je ne savais pas pourquoi, mais je me sentais bien. Et c'est là que je me suis dit, OK, Jean, en fait, ce qui va pas, c'est que t'as pas accroché sur le système moderne des pays industrialisés. Voilà, on le comprend mieux maintenant, Jean Leloup.
Ben oui, hein? Intéressant.
Alors, c'était écrit par Nafi Alibert dans la revue L'Itinéraire.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Nous sommes donc de retour, et nous sommes de retour avec un texte que je suis allé lire dans la Reader's Digest, celui du mois d'avril. Il est signé ce texte par Charles Hugo Normand. Et en introduction, il écrit ceci. « Serge, lorsque vous avez accepté ce poste, vos nouveaux collègues vous ont souhaité bonne chance. » Comme si c'était pas une sinécure, ce poste-là. Le temps passant, des touristes photographient les dossiers empilés sur votre bureau en pensant qu'il s'agit d'une réplique de la tour de Pise. Vous n'arrivez pas à vous concentrer car vous recevez plus d'appels qu'une centrale téléphonique. Si vous croyez occuper le pire emploi de la planète, ce bref palmarès, celui qui suit, vous fera peut-être changer d'avis. Alors, les pires boulots au monde. Cinquièmement. Le cinquième moins pire, si on veut. Parce qu'on va monter du cinquième au premier. Soldats d'infanterie. Ben oui. Les soldats d'infanterie occupent l'un des emplois les plus dangereux des forces armées. Les fantassins sont confrontés à un travail physiquement exigeant, à des conditions météorologiques et à des dangers extrêmes et parfois même à la mort. Ce n'est donc pas surprenant que le site américain CareerCast les ait classés au troisième rang des pires emplois en 2014. Salaire, rémunération... À partir de 49 400 $ par année, cette somme peut être plus élevée selon l'expérience et les champs de compétences. Quatrième boulot, nettoyeur de scènes de crime. On fait généralement appel au nettoyeur de scènes de crime à la suite d'un meurtre, d'un suicide ou d'un accident. C'est un métier essentiel, mais qui n'est pas à la portée de tous. Ceux qui le pratiquent partagent le plus souvent deux traits caractéristiques. Ils sont émotionnellement détachés de leur environnement de travail et ont un estomac d'acier. On peut le croire. Le salaire, environ 40 $ de l'heure, il en coûte un minimum de 2000 $ pour faire nettoyer une scène de crime. Troisième, et celui-là est un peu surprenant, cobaye humain. Il faut faire attention. Les journaux locaux et les transports en commun regorgent de petites annonces proposant de tester de nouveaux médicaments. S'il est facile de repérer ces publicités, ce n'est pas un hasard. Les compagnies pharmaceutiques sont constamment à la recherche de volontaires avant de pouvoir commercialiser leurs produits. Les compensations peuvent paraître attrayantes. Cependant, la valeur de ce revenu est toute relative s'il sert à compenser les nombreux effets secondaires que peuvent provoquer ces tests, étourdissements, vomissements, troubles cardiaques et même la mort. Au Canada, même si les études cliniques sont réglementées, les risques pour la santé demeurent bien réels. Un reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada relevait d'ailleurs qu'en 2005, une vingtaine de patients avaient été infectés par la tuberculose lors d'essais cliniques menés par Anapharm. Salaire environ jusqu'à 6 500 $ par étude, mais en moyenne autour de 1 500 $. Deuxième. Employé de production dans l'industrie de l'électronique en Chine, chez Foxconn. L'une des principales entreprises sous-traitantes de Apple, Foxconn, située dans l'île de Taïwan, possède plusieurs usines en Chine où les employés travaillent à la chaîne à l'assemblage de produits tels les iPhone, iPad et iPod. Faisant état de leurs conditions de travail inhumaines, plusieurs médias n'ont pas hésité à en parler comme de camps de travail. L'une d'elles a d'ailleurs fait la manchette en 2010 quand 14 employés se sont suicidés en se jetant d'une fenêtre. Depuis, l'entreprise a installé des filets anti-suicide, comme sur le pont Jacques-Cartier.
Non.
Le cas de Foxconn ne serait qu'un seul exemple des conséquences d'un mode de gestion visant à réduire constamment les coûts à toutes les étapes de la chaîne de production électronique, et ce, au détriment des travailleurs. Chez Foxconn, F-O-X-C-O-N-N, chaque journée commence par une réunion au cours de laquelle les cadres insultent les employés moins productifs ou ceux qui osent parler à leurs collègues. Les heures supplémentaires sont également obligatoires. Pour toutes ces raisons, environ 300 personnes démissionnent de cette entreprise quotidiennement.
Quotidiennement.
Hein? Le salaire, 295 $ par mois, auxquels sont soustraits, évidemment, 86 $ en frais de dortoir, de nourriture et d'assurance. Ça fait une mince pitance.
Hein? Esclavage.
Mais le pire, le numéro un des pires boulots, c'est éboueur en Inde.
J'allais le dire.
La société indienne est divisée en 4 grandes castes socio-religieuses. L'appartenance à l'une d'elles est héréditaire et détermine les types d'emplois autorisés. Malheureusement, une grande partie de la population est exclue de ce système et se trouve reléguée aux tâches les plus ingrates. C'est le cas des femmes, qui récoltent les matières fécales des toilettes sèches. Les hommes, eux, vident les égouts et les fosses septiques. Là, il faut avoir un estomac assez solide. Le tout est transporté dans des paniers de bambou vers des dépotoirs. Pour cette tâche, les éboueurs doivent parfois entrer dans les excréments sans protection. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 70 % d'entre eux meurent dans l'exercice de leur fonction. 70 %. Même si l'embauche d'éboueurs manuels, entre guillemets, est maintenant illégale en Inde, cette pratique perdure encore aujourd'hui. Salaire, 30 cents par jour pour les toilettes sèches, mais 6,30 $ par jour pour les égouts et une occasionnelle bouteille d'alcool pour engourdir les sens. Les pires boulots au monde, par Charles Hugo Normand, c'est dans le Selection Reader's Digest du mois d'avril qu'on peut lire ce texte.
Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Prendre la charité, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. Chaque jour, comment je vis, et on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour, et j'espère la vie mieux. C'est loin d'un grand bout d'alors,
même le long du Grand Texas. J'ai cherché où est le pour toi travailler. C'est trop dur et vous laissez pas bon. Mon est la charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour que moi je vis, qui en demande quoi je vis. Je dis que je vis sur la mort et j'espère de vivre mieux. Chers amis, la vie est bien, bien trop courte pour se faire des misères. Allons danser ce soir. Travailler, c'est trop dur et vous laissez pas bon. Mon est la charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour que moi je vis, et on demande quoi je vis. Sous la mort, et j'espère de vivre mieux. Travailler, c'est trop dur, et voler, c'est pas beau. Mon est la charité, c'est quelque chose pour pas faire. Chaque jour, comment je vis, et on me demande quoi je vis. Il dit que je vis sous la mort, et j'espère de vivre mieux. Et j'espère de vivre.
En voiture.
Et voilà, et maintenant, ni trop tard, ni trop vite. Autonome, tous les enfants le deviennent en grandissant. C'est plutôt le rythme qui compte. Êtes-vous du type qui presse son enfant ? Du type ralentisseur ou du type équilibré qui navigue entre ces deux pôles. En route, quand le bébé naît, il se met immédiatement en route vers l'autonomie. Ça ne paraît pas tout le temps, mais chaque jour, il acquiert un peu plus de liberté. Au début, il découvre ses mains, puis ses pieds. Bientôt, il voudra marcher. Un jour, il voit son visage dans le miroir. Oups, il est distinct de celui de maman. Puis, il mange par lui-même. Il en vient à choisir ses jeux, ses amis. Il s'habille comme il aime. Le temps passe et il décide d'aller vivre en appartement. Comme parent, on n'a donc pas à pousser son enfant vers l'autonomie, car de toute façon, il y arrivera. Il s'agit simplement, par votre présence rassurante et votre amour, de l'aider à se structurer et de lui donner un sentiment intérieur de sécurité. Il sait que vous êtes là quand il a un dilemme. C'est à partir de cette base qu'il prendra peu à peu sa liberté et deviendra autonome. C'est quoi au juste l'autonomie ? C'est être en mesure de décider d'une action et avoir du plaisir à l'accomplir par soi-même. C'est se fixer un objectif et le réaliser. Par exemple, je veux faire un dessin collage. Je trouve une feuille, des crayons, de la colle, du papier à découper et je m'y mets. Rien ne m'empêche de demander l'aide de mamie pour trouver ce dont j'ai besoin. Attention à l'autonomie obligée. Comme parent, il arrive qu'on se dise « il a 2 ans, c'est fini la suce ». Plus vite il saura lire, meilleurs seront ses résultats à l'école. Mieux il sera préparé à la compétition qui l'attend dans la vie. C'est alors qu'on le presse inutilement. Un enfant qui doit faire des apprentissages prématurés risque d'étouffer sa curiosité et son sens de l'initiative pour se consacrer sur la satisfaction de ses parents. Il se décentre de lui-même. du temps et de l'espace. Par ailleurs, on peut avoir aussi avoir tendance à achever des actions que son enfant peut faire tout seul. On termine soi-même la petite figurine en pâte à modeler qu'il est en train de créer. C'est l'heure qu'il se prépare pour l'école, alors on l'habille parce qu'on est pressé. On a peur qu'il tombe, alors on l'empêche d'aller un peu plus loin. Une fois de temps en temps, tout cela est bien normal. Mais il vaut mieux se rappeler que lorsqu'on fait des gestes que notre enfant peut accomplir lui-même, on le prive d'initiative et on l'encourage à développer sa dépendance. Il n'est pas bête, il voit bien que c'est rapide et réussi quand c'est vous qui agissez. Comme parent, il vaut mieux savoir ralentir et attendre. Le juste milieu, une présence attentive, des limites claires, un encadrement, une communication par le regard et le toucher en plus de la parole. Une véritable écoute sont des attitudes qui stimulent sans pour autant presser l'acquisition de l'autonomie. L'enfant n'a pas le même rapport au temps que les adultes. Il vaut mieux respecter ses capacités d'apprentissage et l'accompagner avec toute notre attention. Autonome, il le deviendra à son rythme, deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, etc. Voilà, c'était écrit par Danielle Choquette qui s'intéresse de près à tout ce qui touche les relations familiales. Elle est auteure de nombreux livres sur le développement personnel, l'alimentation, l'éducation et des romans jeunesse. C'était paru dans le Journal de Montréal du 24 mars 2015. Maintenant, les parents peuvent rendre leur enfant narcissique. Les enfants à qui leurs parents disent qu'ils sont spéciaux ont davantage tendance à devenir narcissiques, selon une étude publiée hier, destinée à découvrir les origines de l'égoïsme extrême. Les scientifiques ont observé les comportements de 565 enfants aux Pays-Bas durant une année, et pour effectuer cette recherche publiée dans le journal américain Proceedings of the National Academy of Sciences. Les habitudes des parents ont également été décortiquées. Ainsi, les enfants décrits par leurs parents comme plus spéciaux que les autres et comme méritant quelque chose de plus dans la vie avaient plus de probabilités de réaliser un score élevé à un test mesurant le narcissisme. Les scientifiques ont aussi mesuré combien les parents surévaluaient leur enfant en leur demandant s'ils étaient d'accord avec des affirmations comme « Mon enfant est un bon exemple à suivre pour les autres enfants ». Les sujets étudiés avaient de 7 à 11 ans au début de l'étude. Ils ont tous, avec leurs parents, été suivis à 6 mois d'intervalle à 4 reprises. Les enfants y croient quand leurs parents leur disent qu'ils sont plus spéciaux que les autres, dit le co-auteur Brad Bushman, professeur de communication et de psychologie à l'université Ohio State. Cela pourrait ne pas être bon pour eux ni pour la société. Des encouragements ou des comportements plus chaleureux des parents constitue une meilleure stratégie que celle de leur faire gonfler l'ego des enfants, indique l'étude. Les enfants avec une haute estime d'eux-mêmes ne se voient pas comme plus spéciaux que les autres, mais sont d'accord avec des affirmations selon lesquelles ils sont heureux et qu'ils s'aiment tels qu'ils sont. Les gens avec une haute estime d'eux-mêmes pensent qu'ils sont aussi bons que les autres. Les narcissiques pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, souligne M. Bushman. Le principal auteur de l'étude note que les parents veulent certainement bien faire en disant à leur enfant qu'ils sont spéciaux, mais cela les conduit à davantage de narcissisme. Au lieu d'améliorer leur estime de soi, les habitudes tendent à surévaluer les enfants, peuvent accroître leur niveau de narcissisme, déclare M. Bushman. Cependant, les parents ne sont pas les seuls à blâmer pour des enfants narcissiques, notent les auteurs. Comme beaucoup d'autres traits de personnalité, il y a des éléments génétiques et des traits de caractère des enfants eux-mêmes, souligne-t-il. Voilà, c'était une nouvelle de l'AFP, parue dans le Journal de Montréal du 10 mars 2015.
En voiture, donc.
Là,
c'est vrai.
Oui.
Bon, alors, c'est l'occasion. L'occasion de quoi? D'acheter une auto d'occasion.
Ah, il fait beau pour se promener en auto.
Oh, oui, en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Donc, pas acheter de décapotable.
Ah, pas de cabriolet en avril.
Ah ben, on va attendre au mois de juillet.
Bon.
Ça va? Alors, je suis dans la revue Protégez-vous et imaginez-vous donc qu'ils ont les meilleurs choix 2015. Eh bien, oui. Voulez-vous les savoir?
Oui, absolument.
Oui. Ah, ben,
on
chance,
est tout oui, là. On est tout
chance. Ouf, c'est sauvé. OK. Alors, voici par tranche de prix les meilleurs achats que recommande l'APA parmi les modèles de 2008 à 2013.
L'APA.
L'APA. L'association de pas. Le kilométrage, l'état et l'équipement peuvent faire varier le prix. Hein? Vous vous en doutiez. Certains des modèles proposés n'ont pas reçu la cote très bonne, certains modèles, c'est-à-dire 5 étoiles. Mais leur prix est très abordable, en fait tout de même des choix intéressants. Alors, vous avez combien d'argent, vous, à mettre pour une auto? Entre 4 000 et 6 000 $
C'était bon.
Hein? Alors, vous avez la Ford Focus, la Hyundai Accent 2009, la Hyundai Elantra 2008-2009, la Kia Rondo 2008, la Mazda 2008, la Nissan 2008 et la Toyota Yaris 2008. Ça, c'est entre 4 000 et 6 000 $
La Focus aussi, 2008?
Ford Focus
2008.
2008. Ça vous intéresse?
Oui.
Bon, j'en ai une grise ici. Maintenant, de 6 000 à 8 000 $ ça commence à être un peu plus corsé, là, ici. Ben, vous avez toujours la Ford Focus, mais la 2009, celle-là, c'est normal, elle est un peu plus chère, un peu plus jeune. Et la 2010, okay, la Honda Civic 2008 et la DXG 2009, la Hyundai Sonata 2009, la Hyundai Tucson 2008, la Kia Rondo 2009, Kia Sedona 2008, Pontiac Vibe ou Vibe 2009.
Ce sont des voitures recommandées.
Et de base, oui, oui, ben, oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez que je vous dis, moi, là? Là?
Hein?
Est-ce que je vous dis des voitures
exclus,
à ne pas...
Les exclus ne sont
on
pas
On n'en parle
mentionnés.
Pas, ben non. Écoutez, oh. j'en aurais pour la journée.
Bon, bon, mais,
Toyota Corolla, c'est 2010.
Alors, critique c'est... positive, donc.
Oui, oui. Ensuite, on s'en va de 8 000 à 10 000 $ Oh là là! La Ford Fusion.
Ah, la Fusion, ah oui.
Ouais, 2009. Ça, hein, et 4 cylindres. Hein.
Ah oui, oh, ça c'est oui. Économique.
La Honda Civic, bien sûr. Hein? La Hyundai Santa Fe.
Ah oui?
Et traction avant, en plus. Hein. La 2008 et la 2009, celle-là. De 8 000 à 10 000, quand même de l'argent. Hyundai Sonata 2010 et 2011. La Kia Forte 2010. La Mazda 3GS 2010, la Nissan Rogue 2008 et la Toyota Corolla 2010. Alors ça, c'est entre 8 000 et 10 000 $ Est-ce que, bon, ça ne vous convient pas? Alors allons-y un peu plus cher d'abord.
On est prêt à payer un peu plus.
De 10 000 à 12 000.
Ah, ça va.
Ah, là, on est presque rendu dans les voitures neuves, ma foi du bon Dieu. La Chevrolet Cruze.
Ah oui?
2011 et LS 2012.
Oh!
On se rapproche de 2015. Hein?
C'est General Motors.
Oh, yes. La Honda Accord, tout le monde sera d'accord.
Oui, oui, oui.
Pour
oui.
La Honda Accord 2008, cependant. Hein? Pour de 10 000 à 12 000 $ La Honda Accord, hein, c'est pas donné. Hein? Mais c'est tellement bon. C'est plus que du bonbon. La Hyundai Santa Fe.
Ah oui?
2009 et la 2010. La Hyundai Sonata 2011. La Kia Rondo 2011. La Mazda 6 2009 et 2010. Et la Nissan Rogue 2009. Alors ça, c'est de 10 à 12 000 $ Vous voulez payer encore plus cher?
Là, on va y penser. Là,
on continue. Entre 12 et 15 000 $
Oui.
Alors là, c'est la Dodge Charger.
Dodge Charger et la Dodge?
Rien de moins. 2010 et la SE 2011. la Dodge Grand Caravan 2011.
Ben, coudonc.
Et la SE 2012. Ah, comme il disait l'autre coudon. Il dit, si j'avais du fil, je coudrais bien, mais j'ai pas de fil, je peux pas couder. Honda CR-V 2010. Honda CR-V.
CR-V, ah oui, ah oui, c'est la petite VUS.
Ouais. Et la Hyundai Sonata 2012, la GL 2013, la Mazda 3GS 2012, la Toyota Camry 2010 et la Toyota RAV4 2009. C'est quand même, hein, c'est pas donné, hein, 12 à 15 000 $ pour des autos usagées. Hein.
Oui.
Et finalement, oui, nous allons terminer par les plus chers.
Le glaçage sur le gâteau.
Ah, la Chrysler 300.
Ah oui?
2011. Rien de moins, entre 15 et 18 000 $.
C'est recommandé, c'est bien.
Honda CR-V 2010 et 2011. La Honda Odyssey 2010. La Infiniti GR7 2009. La Jeep Grand Cherokee 2008. La Toyota Prius 2010. La Toyota RAV4 2010. Et pour terminer, la 4 cylindres à traction avant de Toyota RAV4 2011. Voilà.
C'est quoi l'échelle de prix, là?
Là, mon Dieu, j'avais pas retenu ça.
12 000 à combien?
Non, non, on est rendu de, entre 15 et 18 000 $ pour une auto usagée. On ne rit plus, hein?
Oh, pardon.
C'est tout. Merci.
Alors maintenant, quelques brèves. L'austérité, eh oui, mais pas pour tout le monde. L'histoire le prouve encore une fois. C'est avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Dès l'an prochain, le fameux 1% de la population formée des plus riches détiendra dorénavant 50% des richesses mondiales, avertit Oxfam. Alors que la fortune des 80 plus riches fructifiait de 400 milliards entre 2010 et 2014, celle des 50% les moins riches diminuait de 600 milliards. Comme le dit le proverbe, nul ne perd qu'autrui ne gagne. Pour freiner ce déséquilibre grandissant, Oxfam suggère de privilégier l'imposition de la richesse plutôt que du travail ou de la consommation et de lutter ardemment contre l'évasion fiscale.
Mm-hmm. Moi, je vais vous parler du repos. Okay. Oui. Quand on ne travaillera plus les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. C'est M. Alphonse Allais qui a dit ça.
Oui, Alphonse Allais, oui.
Et
puis
je l'approuve.
Et Jean Cocteau de rajouter, de temps en temps, il faut se reposer de ne rien faire.
Ah, c'est bien ça.
C'est beau. Hein?
Le droit à la paresse, ça existe aussi. Peter Simons, homme d'affaires et PDG de la maison Simons, a dit ceci à un journaliste du Devoir. Je sais comment m'y prendre pour cacher de l'argent aux îles Caïmans. Je sais exactement quoi faire.
Ah oui?
Oui. Je sauverais des millions de dollars, mais si tous les entrepreneurs se mettaient à agir de la sorte, qui financerait notre système d'éducation ou notre système de santé?
Oui.
Comment financerait-on les soins aux malades et aux personnes âgées? C'est bien beau faire de l'argent, mais une entreprise a aussi une responsabilité sociale. Moi, je suis fier de payer mes impôts et de faire ma part. Ce n'est pas une question d'être de droite ou de gauche, c'est une question d'équité. Monsieur Simons, Peter.
Alors, s'intégrer, c'est bon pour la santé. Comment se porte notre santé mentale au pays? La Commission de la santé mentale du Canada s'est penchée sur la question. L'objectif de l'étude, dresser le portrait de la situation pour voir dans quelle mesure le système de santé répond aux besoins en santé mentale des Canadiens. Si l'étude révèle que la situation est alarmante quant aux actes d'automutilation chez les étudiants et au taux de suicide dans l'ensemble de la population, le portrait n'est pas tout noir. La recherche a démontré que le sentiment d'appartenance à la collectivité avait un effet sur la façon de percevoir sa santé physique et mentale. Aussi, ce sentiment d'appartenance à la collectivité progresse significativement depuis 2003 chez les immigrants.
Eh bien, comme on achève, on va se reposer bientôt. Je continue dans le repos. Jean-Jacques Rousseau. C'est pour parvenir au repos que chacun travaille. C'est encore la paresse qui rend laborieux. Et M. de Rivarol. Tout le monde s'agite pour trouver enfin le repos. Mais il y a des hommes si paresseux qu'ils mettent le but au début.
Bon. Et en prévision des séries éliminatoires au hockey qui s'en viennent, il y a une caricature qui est de côté, qui paraît dans l'actualité. Alors, c'est un monsieur et une dame bien installés sur le canapé qui regarde M. Bernard Drainville à la télévision. Mm-hmm. Et la madame dit « C'est quoi les valeurs québécoises? » Et le mari de répondre « Pacioretty, Plekanec, Subban, Price, Markov, Galchenyuk. Oh. »
Bon, alors prenez un peu de repos afin de finir plus vite. C'était ce que Georges Herbert avait dit.
Qui? Georges Herbert? Merci. C'était donc le Kiosque Magazine du lundi 13 avril, Serge.
Oui.
Oui. Alors, nous espérons que ce que nous vous avons proposé vous a intéressé, bien sûr. Et nous serons là de nouveau la semaine prochaine avec Franceline Nuviard. Je pense qu'elle ne sera peut-être pas là. Mais
non, lundi prochain, je serai absente, effectivement.
Et merci.
Au revoir. À la prochaine. Oh.